Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 28 avril 2021. Eh bien, on poursuit avec cette série qui s'intitule « Connecter un enfant à ses émotions ». Pourquoi? Parce que c'est une des clés essentielles de l'éducation parentale. Nous sommes à notre partie 2. La semaine dernière, on a parlé d'un point vraiment important, de la cinquième phase de l'éducation édifiante, qui est d'intégrer les temps morts. Et oui, j'ai expliqué la semaine dernière que les temps morts est une bonne façon de connecter un enfant à ses émotions, parce que de connecter un enfant à ses émotions, c'est d'un de ses grands besoins. Il a besoin de connecter avec ses émotions et de les évacuer pour pouvoir redevenir disposé ou pour être disposé à coopérer, à collaborer. Alors, ça fait partie des cinq phases de l'éducation édifiante. Dans les capsules précédentes, eh bien, on a parlé de ces quatre premières phases-là qui aident un enfant à coopérer, à collaborer. Donc, la première phase, c'est tout simplement de formuler sa requête de manière franche et directe. Vous voulez qu'il aille ranger sa chambre, vous voulez qu'il vous aide à faire la vaisselle, alors vous le formulez de manière franche et directe, sans reproche, sans menace. Aimerais-tu aller faire ta chambre, s'il te plaît? Viendrais-tu m'aider à faire la vaisselle, s'il te plaît? Et là, s'il résiste, on passe à l'étape 2. Vous vous arrêtez. Vous lui posez des questions. Comment était ta journée? Peut-être qu'il s'est senti trahi par un ami. Il s'est senti rejeté par ses compagnons de classe. Il s'est senti abandonné, humilié, traité injustement. Peut-être que il n'a pas réussi un examen ou un exercice aussi facilement qu'il l'aurait cru et ça l'a déstabilisé. Alors, il a besoin d'en parler et c'est pour ça qu'il résiste. Donc, ça ne sert à rien à élever la voix et à le chicaner. Il a besoin de parler à ce moment-là. Il a besoin de s'exprimer. La vie va vite et les enfants ont de plus en plus besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et rendu à cette étape, c'est possible qu'après s'être libéré, ça lui a fait du bien et là, il est disposé à collaborer, à coopérer. Si ce n'est pas le cas, vous y allez positivement, vous proposez une alternative coopératrice. Ça veut dire quoi, ça? Vous allez voir, c'est bien simple. Vous avez une carte dans votre jeu qui est une activité, quelque chose que vous allez vivre avec lui qui va lui faire plaisir. Alors, vous lui dites: j'aimerais que tu viennes m'aider à faire la vaisselle, parce que plus vite tu vas le faire, plus vite qu'on va le faire, on veut le faire vite et bien, eh bien, ça va nous donner plus de temps pour aller jouer au parc, par exemple. J'aimerais que tu ailles ranger ta chambre tout de suite, parce que ça va nous donner plus de temps pour lire des histoires. On va pouvoir en lire deux au lieu d'en lire une. Alors, c'est une alternative coopératrice pour le stimuler à, justement, s'activer immédiatement à accomplir ce que vous lui demandez. S'il y a de la résistance, vous affirmez votre autorité, vous lui dites: j'aimerais que tu ailles ranger ta chambre, s'il te plaît, ou voudrais-tu venir m'aider à laver la vaisselle? Il résiste. Vous avez déjà fait les trois autres étapes, les trois autres phases de l'éducation édifiante. Vous le répétez. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que souvent les parents vont élever la voix. Moi, je vous conseille de la baisser. J'aimerais que tu ailles ranger ta chambre, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais que tu ailles ranger ta chambre. Vous baissez la voix, vous attendez. Il va rouspéter, il va faire des sons, etc. Ne vous laissez pas intimider. Laissez-le rouspéter et laissez-le aller. D'accord? J'en ai parlé dans les capsules précédentes. Et donc, vous pouvez y retourner. Vous allez voir, ça va vous encourager et ça va vous donner des outils, des moyens pour former votre enfant à collaborer progressivement. Paris ne s'est pas bâti un jour, mesdames et messieurs. Alors, après avoir utilisé, après avoir vous êtes exercé à passer au travers ces quatre phases de l'éducation édifiante, eh bien, il se peut que vous ayez besoin d'une cinquième phase, c'est le temps mort. J'en ai parlé la semaine dernière, comment procéder pour les temps morts. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans certains cas, vous allez avoir besoin d'utiliser les temps morts, mais dans certains cas, ça ne fonctionnera pas aussi bien que vous le souhaitez. Alors, il y a des raisons pour ça. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas parce que le temps mort n'est pas efficace, c'est que parfois, dans certains contextes, ce concept n'est pas efficace. Il y a des prérequis, disons, il y a des circonstances qui vont faire que ça ne sera pas aussi puissant, ça ne sera pas aussi efficace. Par exemple, lorsqu'on utilise trop le temps mort ou lorsqu'on ne l'utilise pas suffisamment, ou lorsqu'on s'attend à ce que le temps mort, ce soit un temps où est-ce que notre enfant soit tranquille, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et dans un autre moment ou dans une autre circonstance, le temps mort ne fonctionnera pas, c'est lorsqu'on s'en sert comme outil de dissuasion ou de punition, c'est clair que là, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais reprendre ces quatre points-là. Trop de temps mort, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on utilise trop souvent le temps mort, est-ce que c'est possible d'utiliser trop souvent le temps mort? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais l'utiliser? Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Dans quelles circonstances on utilise trop le temps mort? Bien, il est trop utilisé si on utilise presque jamais les quatre phases de l'éducation édifiante. En d'autres mots, si on n'utilise que des temps morts, mais on ne passe pas par les quatre premières étapes, donc on saute vite à la cinquième étape et on escamote le processus, c'est certain que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Parce que les quatre phases de l'éducation édifiante servent justement à aller chercher les besoins, le besoin de l'enfant ou les besoins de l'enfant. L'enfant va être plus coopératif ou plus épanoui si justement on a touché ses besoins, on a contribué à son développement. Maintenant, le temps mort sert à un des aspects, évacuer ses émotions. Donc, connecter avec ses émotions pour évacuer le trop-plein. Maintenant, c'est un des aspects bien importants de connecter un enfant à ses émotions, mais ce n'est pas le seul. Puis, je pourrais comparer ça à de la vitamine C. Notre système, notre organisme a besoin de la vitamine C, mais ce n'est pas le seul supplément qu'il a besoin, du moins ce n'est pas le seul ingrédient que notre corps a besoin. Il a besoin de d'autres suppléments, de d'autres minéraux, de d'autres vitamines, comme la vitamine D par exemple, etc. Donc, on a besoin de fer, on a besoin de plusieurs autres suppléments. Maintenant, même si la vitamine C, c'est excellent, et c'est nécessaire, ça ne veut pas dire qu'on doit donner uniquement de la vitamine C à notre organisme. Alors, c'est la même chose. Si on utilise uniquement les temps morts pour bâtir cet esprit de coopération, ou du moins stimuler cet esprit de coopération, mais là, on passe à côté, on n'aura pas le résultat escompté parce qu'on a besoin des quatre autres phases, des quatre autres piliers. Deuxièmement, si votre enfant ne vit pas suffisamment de temps mort, bien, vous allez avoir des signaux qui vont vous l'indiquer très clairement si votre enfant ne vit pas suffisamment de temps mort. Premièrement, si il ne vous écoute pas, s'il n'arrête pas de faire ce qui vous énerve. Par exemple, il saute sur le divan. Je t'ai dit d'arrêter de sauter sur le divan. Arrête de sauter sur le divan. Je le répète une dernière fois. Alors, s'il ne vous écoute pas comme ça, c'est que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de temps mort. Il n'a pas vécu suffisamment de temps mort. Si vous n'êtes pas pris au sérieux, s'il devient tyrannique. Alors, les temps morts servent à rétablir votre autorité. Donc, n'oubliez pas, ça ne doit pas être une intervention unique. Et le but des temps morts n'est pas de briser la volonté de votre enfant. En fait, aucune intervention éducative n'a pour but de briser la volonté de votre enfant. Au contraire, on veut rendre nos enfants volontairement plus coopératifs. On veut qu'ils puissent utiliser leur volonté à coopérer. Donc, on ne doit pas briser leur volonté. On doit les orienter. On doit les encourager, on doit les former à justement se servir de ce qu'ils ont déjà en eux. Ils ont un désir de coopérer, mais il y a des fois des éléments. Ils ont besoin de guides, ils ont besoin de parents pour les encadrer. Et c'est à ça que ça sert les cinq phases de l'éducation édifiante. Donc, et peut-être que vous allez dire, « Ouais, mais là, j'ai utilisé les temps morts, mais j'ai arrêté parce que ce n'est pas efficace. Donc, je ne les utilise plus. » Ce qui arrive, c'est que, en anglais, on dit que ce n'est pas un « one-shot deal ». Donc, ce n'est pas une utilisation unique. Les temps morts peuvent être utilisés plus d'une fois dans une journée. Ça dépend de votre enfant, ça dépend des circonstances, ça dépend de son âge, son développement. Donc, utilisez-le autant que vous en avez besoin. Évidemment, utilisez-les toujours comme étant un cinquième élément. Ça peut arriver à l'occasion que vous êtes pressé une journée, vous discernez que le temps mort, c'est ce qu'il y a de plus efficace, puis vous sautez les quatre premières étapes une fois. Mais si c'est continuellement, si c'est d'une manière habituelle que vous sautez les quatre premières étapes, c'est là que ça fait fausse route. Mais ne pas utiliser les temps morts, c'est aussi pire que les surutiliser. Maintenant, ça se peut que vous ayez besoin de les utiliser plus souvent qu'autrement, parce que votre enfant est actif, parce qu'il est dans une phase de vie où est-ce que sa reconnexion avec ses émotions puis l'évacuation de ses émotions est nécessaire et salutaire pour lui, pour votre enfant. C'est possible. Donc, ne comptabilisez pas le nombre de temps morts que vous utilisez. Si, par exemple, vous utilisez régulièrement ou assez souvent les quatre premières phases de l'éducation édifiante, les quatre types d'interventions, ne vous en faites pas en termes de quantité. À un moment donné, à partir de l'âge de 9 ans et un peu plus tard, ça va commencer à se restabiliser. Ensuite, le troisième point, eh bien, s'attendre à ce que l'enfant soit calme dans le temps mort. Mais un temps mort, ce n'est pas un temps de relaxation. Ce n'est pas un temps pour se calmer. C'est un temps pour évacuer son trop-plein émotionnel. Il va y avoir des réactions émotionnelles. Ce n'est pas là pour refouler ses émotions. Non, non. C'est d'autoriser l'enfant à aller jusqu'au bout de sa résistance. Puis, lorsqu'un enfant ou un préado, ou même des fois un ado, vit pleinement un temps mort, il redevient calme. Donc, le calme, ce n'est pas l'objectif du temps mort, c'est le résultat du temps mort. Donc, un temps mort, ce n'est pas pour dire, là, tu vas aller prendre un temps mort parce que je veux que tu sois calme. Non, non. L'enfant va prendre un temps mort pour connecter avec ses émotions, les évacuer. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'il a été au bout de sa résistance, là, le calme revient. C'est la finalité. Ce n'est pas le départ, ce n'est pas l'objectif. Le temps mort n'est pas pour qu'il vive ce moment-là comme étant un moment calme. À la fin du temps mort, quand il va être calme, il n'y a plus besoin de temps mort. Une fois qu'il a retrouvé son calme, il n'y a plus besoin de temps mort. Donc, voyez-vous, il faut distinguer temps mort et calme. Ça, c'est bien important. Le calme va être à la fin. C'est comme le dessert à la fin du repas. Alors, le repas n'est pas le dessert. C'est comme ça que je pourrais vous l'illustrer. Et le dernier point, se servir du temps mort comme une punition, eh bien, c'est pas efficace. L'enfant peut l'assimiler à une punition à court terme, oui, mais premièrement, on ne doit pas le présenter de la sorte. Deuxièmement, on ne doit pas l'identifier ni le concevoir comme une punition. Il ne doit pas l'associer à une punition. Et comment il peut l'associer à une punition si on s'en sert sous forme de menace? Hey, si tu n'es pas tranquille, tu vas avoir un temps mort. Ou tout ce qui commence par si. Donc, si vous utilisez l'expression temps mort avec un si, c'est sûr qu'il va le voir comme une menace et ce n'est pas sain. Ce n'est pas une punition. C'est un temps qui va se permettre d'aller au bout de sa résistance, d'évacuer ses émotions et, à ce moment-là, de s'en libérer. Donc, trop de temps mort, pas assez de temps mort. Si on utilise le temps mort comme un temps de relaxation, eh bien, ça ne sera pas efficace. Et évidemment, si on s'en sert comme une punition, ça ne sera pas efficace non plus. La semaine prochaine, de quoi allons-nous parler? Eh bien, la semaine prochaine, on va finaliser toute cette question-là de temps mort. On va parler de manipulation et on va parler de coopération. Alors, on va terminer cette série « Connecter un enfant à ses émotions » la semaine prochaine. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci et au revoir.